Rock and Sobre, la série de reportages qui t'emmène à la découverte d'initiatives locales et durables sur tout le territoire genevois. Ça se passe près de chez nous. On passe à l'action.
Dans Rock'n'Sop ce matin, on s'attaque à un gros morceau, la rénovation énergétique de nos bâtiments. C'est la suite de notre Rock'n'Sop sur le chauffage, car pour mieux chauffer, il faut bien sûr mieux isoler, et tout ça relève de la rénovation. À Genève, le canton a fixé son cap, réduire globalement de 60% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais comment on y arrive? En s'attaquant à un gros émetteur de CO2, notre parc immobilier. Fini les passoires énergétiques, désormais les propriétaires ont des obligations légales strictes. On ne parle plus seulement d'idéal écologique, mais d'indices de dépenses de chaleur à respecter et de mesures correctives concrètes. Dans ce premier bloc, on plonge dans les coulisses de cette stratégie cantonale avec Cédric Petitjean, directeur général de l'Office cantonal de l'énergie à Genève.
Alors, l'ambition du canton s'est inscrite dans son plan directeur de l'énergie, c'est le consommer moins et le consommer mieux. Le consommer moins, c'est la rénovation. Il y a l'optimisation du parc bâti, mais il y a aussi faire en sorte qu'il y ait des mesures constructives qui baissent la demande de chaleur. Les objectifs, Genève a un indice de dépenses de chaleur qui permet de monitorer, de mesurer chaque année la consommation d'énergie ramenée à la surface de référence énergétique avec les corrections jour, et c'est de traiter les bâtiments les plus énergivores. Le dispositif dans sa globalité permet d'atteindre les moins 60% de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. 450 mégajoules mètre carré par an, c'est le seuil pour lequel on considère qu'un bâtiment a besoin d'avoir des mesures correctives pour permettre d'atteindre les objectifs de moins 60% de gaz à effet de serre.
Et il y en a beaucoup à Genève.
Vous avez un parc relativement grand qui ont le dépassement de ces 450 mégajoules mètre carré par an. Mais tous les bâtiments n'ont pas la même qualité quand on dépasse les 450. Et donc le Conseil d'État, dans son modification réglementaire, a fixé le dépassement significatif, de dire les bâtiments, au présent, en ce moment, les bâtiments supérieurs à 800 mégajoules mètre carré par an, eux doivent mettre en place des mesures correctives, c'est-à-dire des mesures de rénovation, pour faire en sorte que leur bâtiment repasse en dessous le 450.
Donc chacun doit faire son bilan ou c'est le canton
Non, c'est chacun. C'est une obligation légale déjà depuis une grosse décennie que les propriétaires doivent remettre chaque année leur indice de dépenses de chaleur. Et puis, dans la planification de rénovation, on est parti sur 2027 pour ce 800 l'abaisser à 650. Et donc, à partir de 2027, les bâtiments supérieurs à 650 recevront des décisions administratives pour, là aussi, faire la correction de leurs bâtiments. Et en 2031, ce 650 sera abaissé à 550. Pour tous les bâtiments qui sont entre 450 et 550, ce sont des bâtiments qui, par des mesures d'optimisation, vont pouvoir passer en dessous le 450. Ils n'ont pas besoin de faire des rénovations lourdes. Ils ont besoin
Donc, ce serait quoi? Changer
C'est changer le circulateur, faire l'équilibrage hydraulique des installations techniques. C'est la courbe de chauffe de la chaudière.
Donc, c'est assez maîtrisable, quoi, en fait.
C'est maîtrisable, c'est faisable. Les professionnels, les chauffagistes sont tout à fait compétents en la matière. Ça, c'est la partie optimisation. Et puis après, vous avez des mesures ponctuelles, rénovation des fenêtres.
C'est déjà de la rénovation lourde, ça?
Non, alors, à partir du moment où vous devez engager un franc, le propriétaire peut trouver que c'est de la rénovation lourde. Ce sont des mesures ponctuelles qui permettent de baisser la consommation. Ensuite, lorsque vous avez besoin de repenser le bâtiment, que ce soit l'enveloppe dans sa globalité, refaire la toiture, bien là on est dans de la rénovation lourde. Mais vous pouvez aussi aller plus loin et viser des standards énergétiques comme Minergie Rénovation, HPE Rénovation, qui dans ce cadre-là et suite aux accords qui ont été signés en 2024 entre tous les milieux du tissu économique genevois et des associations environnementales, défenseurs également des locataires et des propriétaires, eh bien, cet accord qui donne 500 millions pour la rénovation, quand on vise des labels, eh bien, ça permet d'avoir à la fois l'exonération de l'impôt immobilier complémentaire, mais aussi l'accès au barème de subvention de l'Office cantonal de l'énergie.
Ça vient un peu contrer finalement cette réforme fiscale qui a été acceptée le 28 septembre 2025, qui supprime certaines déductions dont bénéficiaient les propriétaires. pour des travaux pour la rénovation énergétique ou d'autres travaux pour faire un effet de levier.
Remettons la chronologie de l'histoire. Les subventions pour la rénovation ont existé avant cette décision du peuple et donc vous aviez une cumule des subventions, de ces exonérations fiscales. Aujourd'hui, un propriétaire privé, en l'état, a une perte d'argent dans le cadre de sa rénovation puisqu'il ne peut plus utiliser ce dispositif. Ensuite, il faudra voir comment les dispositifs évoluent et aujourd'hui, rien n'est statué en termes d'application de ce dispositif. Donc, à Genève, on maintient encore un taux de subventionnement fort grâce à l'enveloppe des 500 millions, mais la partie fiscale, elle a été entachée sur ce volet-là, oui.
Donc les 500 millions font effet de levier pour inciter les propriétaires à rénover en fait,
tout
c'est
à fait.
Ça
ils sont ouais. là pour les inciter, les accompagner.
Et dans passer en dessous les 450.
Mais plus bas, puisque là on vise plutôt des rénovations qui seront plutôt autour des 300 mégajoules, 250-300, puisque l'atteinte de standard vous permet d'être beaucoup plus bas. Et c'est l'entièreté du dispositif pour répondre au final à la question initiale, c'est quoi l'objectif de Genève ? Eh bien l'objectif c'est que chacun des objets de ce canton soit au plus juste dans sa consommation d'énergie. Et donc, si vous avez des bâtiments pour lesquels vous ne pourrez pas, par leur usage, baisser plus bas que 400 mégajoules, eh bien, ils auront quelque part une contrepartie par d'autres bâtiments qui, eux, pourront, soit des bâtiments neufs, soit des bâtiments qui auront pu avoir des rénovations importantes et visant des standards, permettre de trouver cet équilibre et faire en sorte qu'on ait un canton qui soit dans la cible que s'est fixé le Conseil d'État avec
60%. Donc il y aura 60%. Des dérogations
ou... Tout dispositif légal, vous avez des dérogations parce qu'il y a des infaisabilités techniques, parce qu'il y a des protections patrimoniales, parce que vous êtes dans des zones où au final on ne peut rien faire parce que le bâtiment, de par sa structure, on ne peut pas lui mettre une pompe à chaleur sur le toit sinon tout tombe. Donc il y a le structurel aussi, donc bien entendu qu'il y a des dérogations aussi bien pour infaisabilité technique que pour disproportion économique ou incapacité financière.
J'avais juste lu qu'aujourd'hui, il y aurait moins de 1% de rénovation dans le canton et que l'objectif était de dépasser les 2,5% par an en 2030, atteindre 4% en 2050. Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Alors, c'est une mauvaise interprétation de ce qui est écrit dans le plan directeur de l'énergie. Dans le plan directeur de l'énergie, on dit qu'en l'état, par rapport à 2020, on avait un taux de rénovation de 1%, un peu moins en gros. Et avec le dispositif que je vous ai expliqué, eh bien, en 2030, on devrait être à 2,5% de taux de rénovation. Donc, ce n'est pas un objectif de 2,5, c'est le résultat du dispositif qui mènera à un taux de 2,5% parce qu'en fait, il y a un échelonnement en fait, de ces mesures aussi pour faire face à la demande et que les entreprises, notamment genevoises, puissent faire les travaux parce que si tout le monde va en même temps, on n'aura pas assez de main-d'œuvre. Donc le 2,5 que vous mentionnez, ce n'est pas un objectif, c'est la cible. Si le dispositif fonctionne bien, eh bien on sera à 2,5%. Et on le mesurera à ce moment-là. Et on travaille avec l'université. C'est l'université de Genève qui met en place le monitoring pour voir si c'est des mesures de sobriété énergétique ou des mesures de rénovation, d'optimisation. Donc ce monitoring est en cours et on vous le communiquera. Mais il faut laisser un petit peu le temps que ces mesures qui sont du moyen terme. C'est pas une mesure. L'optimisation, c'est instantané. On peut le mesurer de manière instantanée, mais c'est dans un système où le bâtiment est rénové et donc on doit pouvoir le monitorer et on aura des résultats, mais c'était un peu tôt pour aujourd'hui.
Après la théorie, place à l'action, direction la route de Drise pour découvrir la rénovation de trois bâtiments de 1998. En apparence, tout va bien, mais énergétiquement, ces bâtiments sont classés E. L'objectif de la rénovation ici, passer de la classe E à la classe B. Et pour réussir ce pari, rien n'est laissé au hasard. Adieu la chaudière à gaz, bonjour aux énergies renouvelables. On parle ici d'isolation haute performance à la laine de roche et d'un toit couvert de panneaux photovoltaïques pour viser au maximum l'autonomie.
Donc, c'est Dario Sant'Andrea ici, représentant, directeur et fondateur de l'entreprise INEA, un petit bureau d'ingénieurs qui fait sa présence à Genève depuis 2 ans. Mais moi, ça fait déjà des années que je suis sous Genève et je m'occupe de la rénovation des bâtiments et aussi l'efficience énergétique dans les entreprises.
Là, vous m'avez donné rendez-vous au 22A de la route de Drise. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que je n'ai pas l'impression de voir des travaux ici.
Non, effectivement, vous êtes venu sur un possible chantier futur. C'est trois barres d'immeubles habitat résidentiel collectif d'une architecture classique des deuxième moitié des années 90, construite avec du béton armé, avec de la brique et avec aussi une expression spéciale avec des façades qui sont un peu retraites, avec aussi des caissons de store, une isolation intérieure, une isolation extérieure. C'est des bâtiments qui, en soi, construits en 1998, sont quand même en classe ce qu'on appelle le CEOCB, donc le certificat énergétique cantonal des bâtiments. C'est un certificat un peu comme les voitures, le frigo. C'est en classe, aujourd'hui en classe E. C'est-à-dire que quand même, selon la construction de l'époque, il est plus ou moins isolé. Mais si on rapporte à les règles de l'art aujourd'hui, il n'est pas très bien. C'est pour ça qu'un projet comme ça, on est en train de développer un projet qu'on appelle THPE, c'est-à-dire transformer ce bâtiment avec des travaux simples, rénovation des façades simples, réfaction de la toiture, isolation des sous-sols froids, donc les plafonds froids qui sont des zones non chauffées, pour atteindre la classe B, c'est-à-dire THPE. Et aussi, on a aujourd'hui une chaudière à gaz qui produit la chaleur pour le chauffage et le chaud sanitaire pour les trois barres d'immeubles, donc le 22, le 22A et le 22B, qui aussi, c'était le but de la stratégie initiale. En fait, ils voulaient changer le système de chauffage. Je dis, oh, on peut mettre une pompe à chaleur. Aujourd'hui, donc, le projet voit, à l'état actuel, le remplacement entier de la chaudière à gaz, s'emparer de CO2, donc la production carbonique, qui c'est un des piliers de la transition énergétique 2050 de la Confédération suisse et 2030 du canton de Genève, est passé en source renouvelable 100%, pompe à chaleur RO, montée sur la toiture, qui vont assurer donc la qualité et le confort des habitants et des occupants.
Mais alors, qu'est-ce que vous avez choisi aussi comme matériau? Vous parliez de la façade. Quand on parle de rénovation pour passer de la classe E à la classe B, on entend qu'il y a plusieurs travaux.
Oui, tout à fait.
Mais par exemple, si on parle de la façade, quels sont les matériaux que vous choisissez?
Alors, donc, dans tous mes projets, j'y tiens aussi à l'aspect durabilité. Et donc, ce qu'on propose, notamment pour un bâtiment comme ça, que c'est un bâtiment habitat collectif de plus de 11 mètres d'hauteur, donc doit respecter aussi ceux qui sont les prescriptions anti-feu, normes incendie. Donc ce qu'on met, notamment sur la façade, on va couper ce qui sont les ponts thermiques, on va traiter la façade de la partie extérieure et en partie intérieure aussi, ce qu'on appelle les caissons de store ou les contre-corps qui sont en retrait de la façade. On va tout travailler avec un isolant local suisse, c'est la laine de roche. La laine de roche, c'est un très bon isolant pour les façades parce qu'il est bien pour la vapeur. Mais aussi c'est RF1, c'est-à-dire que c'est anti-feu. Et c'est vraiment dur qui prend du feu parce que c'est de la roche, en fait c'est de la roche des grisons transformée en cette pâte, cette laine minérale qui est utilisée pour les bâtiments. Donc toute la façade va être la partie est, la partie ouest, vous voyez cette barre métallique va être remplacée, va être une isolation extérieure. Parce qu'aujourd'hui on a fait des carottages sur tout le bâtiment, on s'est aperçu qu'il n'y avait que du bois, 3 cm de XPS, vide. Et cette barre métallique, on va tout enlever, on va faire une jolie et propre façade avec la laine de roche extérieure. Comme ça, le confort des occupants, c'est bien. C'est quoi le confort? En fait, on a un confort dans une pièce quand la température du mur et la température intérieure, il y a trop d'écart. Si on était tous à 16 degrés, uniformément, même ça va encore. Mais quand on passe une façade de 16 et dedans, il y a 21 degrés, c'est 5 degrés Kelvin de différence, ça fait un grand inconfort. C'est pour ça que l'isolation, c'est aussi pour augmenter le confort des occupants. Et après, les façades dans le sud, nord et sud, on va aussi travailler avec la laine de roche, mais pas l'intérieur, parce qu'on va travailler, c'est les contre-corps. Vous voyez en fenêtre, vous voyez les vieux bâtiments, vous voyez une façade très épaisse, après il y avait le radiateur avec la fenêtre, c'est la partie du mur qui rentre, qui fait cette différence en épaisseur, ça c'est un contre-corps. Et on va isoler cette partie-là, parce que c'est une partie faible au niveau thermique. Bien sûr, on réfléchit aussi, aujourd'hui on discute avec les PPE, peut-être on peut mettre aussi une petite couche isolante nord et sud, mais à voir, parce que quand même, le budget, il ne faut pas trop aller, parce que quand même on est des PPE ici, propriétaires par étage, donc il y a 23 propriétaires, il y a 23 unités habitatives, et il y a 3 PPE. Et le projet THPO, c'est très, très important de l'amener parce qu'il y a la conscience de la transition énergétique. Aujourd'hui, l'IDC, donc l'indice de dépense de chaleur des PPE, c'est autour de 450. Donc c'est un peu dans la limite de ce qu'est le cadre légal qui demande le canton de Genève, qui est 2033, on arrive à tous les bâtiments, soit il y a 450 mégajoules mètre carré. Bon. Ici, on est un peu à la limite, mais en faisant tous ces travaux-là, on va être bien au-dessous de 200 mégajoules mètre carré par année. C'est-à-dire qu'on va être un bâtiment qui va être bien pour les prochaines 40 ans. Les fenêtres aussi vont totalement être remplacées, on va mettre du triple vitrage, avec aussi la transmittance qui fait passer la lumière l'hiver. Donc, il y a aussi cet aspect d'apport solaire et de gain de chaleur pendant l'hiver. Et pendant l'été aussi, on a moins de soleil qui rentre, ça chauffe moins.
Donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'on peut agir à différents niveaux. En fait, quand on parle de rénovation, c'est assez vaste en fait comme thème.
C'est assez vaste. On peut agir sur des rénovations ponctuelles. On peut agir notamment voilà, en belle maison qui a un vieux bâtiment des années 60, qu'on voit la toiture totalement dégradée parce qu'on voit l'étanchéité qui lâche, on voit l'eau qui stagne. On dit ok, on peut faire une isolation ponctuelle. Mais de plus en plus, quand on prend des bâtiments qui dépasse déjà les 30 ans, c'est bien réfléchir à une rénovation globale. Parce qu'il y a aussi le concept d'amortissement, c'est-à-dire notamment dans un bâtiment, on sait que les façades sont amorties en 40 ans, en 50 ans, la toiture aussi, mais les fenêtres, après 25 ans, commencent à avoir déjà être mal fonctionnantes, on voit déjà les gens qui sont partis, il y a l'étanchéité qui lâche. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours faire l'isolation totale, mais un bâtiment comme ça, effectivement, de 30 ans presque, c'était le cas d'agir ponctuellement sur les fenêtres, les remplacer toutes, mais agir aussi sur les faiblesses thermiques, notamment les zones froides du sous-sol, parce que les gens qui sont durés, ils sont froids parce que le sous-sol est froid. Donc on isole ça, la toiture, elle a aussi presque 30 ans, l'étanchéité commence à lâcher, et donc on isole bien la toiture, et donc les gens de l'attique sont moins d'inconfort, mais tout le monde y gagne, parce que l'attique et le raie sont moins de déperdition de chaleur.
L'attique,
c'est le dernier étage. Et chose très importante, on essaie aussi de rendre le bâtiment, entre guillemets, permettez-moi, autarchique dans la mesure du possible. On est en plein changement de loi. Donc, dès le 1er novembre, le peuple genevois a voté que tous les bâtiments qui sont rénovés, il faut mettre le plus possible de photovoltaïque, au solaire, en fait. Et c'est pour ça qu'ici, donc, on a changé le projet en cours de route. Maintenant, toutes les toitures seront équipées d'une installation photovoltaïque qui recouvre le pourcentage possible sur la toiture. Et donc, on essaie d'aller vers l'autarchie, entre guillemets, on essaie de produire et de consommer sur place le plus possible de l'énergie électrique solaire.
On prend de la hauteur dans Roquensobre, on quitte la ville de Genève et ses grands chantiers pour grimper à 770 mètres d'altitude au-dessus de Baie, face à la Dent du Midi. Imaginez en pleine forêt une maison qui vit au rythme de la nature en totale autonomie. Dans cette séquence, on oublie le béton et le synthétique. Ici, on parle le langage de la chaux, du chanvre et de la pierre qui respire.
Prochain arrêt. Nous voici arrivés en gare de Baie pour rencontrer Sylvain Bastineau de Biorénovation.
Bonjour, vous êtes Sylvain, ça va ?
Avec le beau soleil, vous se dire tout.
On emprunte une route forestière et c'est parti pour découvrir la maison que Sylvain vient de rénover, qui est sa propre maison. Là, on a combien ?
On est à 770 mètres.
Je croyais même qu'on était plus haut.
Bah oui, on croit qu'on est plus haut parce qu'en fait, on monte justement, on monte dans la forêt et tout. Donc les gens, ils disent, ouais, mais t'habites à combien, 1000 mètres? Je dis, non, 770. Donc c'est chouette, tu vois, même pour cultiver et autres. Donc c'est, y a plein de possibilités, quoi. Donc c'est royal, quoi. Avec la petite source d'eau, là. T'as une source qui est 400 mètres plus haut. Et en fait, t'as un réservoir de 2000 litres. Et puis ça, c'est bah, quand il est plein, t'as le trop plein ici. Donc c'est l'eau qui coule, là.
Avant de faire le tour du propriétaire et voir comment Sylvain a rénové sa maison de manière biologique, commençons déjà par les présentations.
Ouais, alors moi, je m'appelle Sylvain. Et puis j'ai 45 ans cette année. J'ai une entreprise, donc c'est pour ça que t'es venu, j'ai une entreprise biorénovation. Je travaille essentiellement avec des matériaux naturels. Et puis dans le respect de l'environnement, c'est plus basé justement sur le fait d'utiliser vraiment les matériaux. Hein. Je suis pas, c'est pas le entre guillemets, j'appelle des fois ça la fausse écologie. C'est pas pour économiser de l'argent, c'est vraiment pour le respect en fait de la planète et puis des matériaux. Utiliser que ce soit de la laine de bois, du chanvre, justement de la chaux, tout ce genre de choses. Donc moi je suis assez passionné justement des enduits, tous les enduits décoratifs, tous les enduits à la chaux justement qui sont respectueux, qui ont plein de propriétés en fait, que les gens ils ont oublié maintenant et puis qu'on n'utilise plus On n'utilise plus ça parce qu'on veut toujours aller vite, 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 faire les choses vite, mais qui finalement ne vont pas être vraiment durables.
Si on fait un peu le tour de ta maison, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait ? Parce qu'aujourd'hui, tu vis dans ce qui s'appelle une maison autonome.
Exactement, autonome. Donc là, comme on parlait de la source avant, puis il y avait déjà des panneaux solaires que j'ai rajouté, donc là c'est vraiment la seule source d'énergie qu'on a ici. On verra peut-être plus tard de peut-être mettre, parce qu'il y a une rivière plus bas, si on peut peut-être mettre une turbine ou des choses comme ça, mais là essentiellement c'est avec le solaire, donc on tourne là-dessus. Et puis c'est pour ça que du coup on va aller dedans, après on verra. On a la cuisine, bah c'est à gaz. Toutes les choses qui consomment énormément, il faut essayer de les limiter. Par exemple, la vaisselle, on l'a raccordée avec de l'eau chaude, comme ça, ça va consommer moins de courant. Et puis, on a installé justement pour tout ce qui est chauffage, une chaudière à bois. Parce qu'ici, on a la chance d'avoir beaucoup de terrain, d'avoir beaucoup de forêts autour. Donc, on a évidemment le bois gratuit. Donc, on va aller voir dedans après. Et puis, il y a l'eau chaude. Ça nous fait l'eau chaude sanitaire, donc pour tout ce qui est bain et autres. Et puis aussi, donc là, maintenant, on a le chauffage au sol, on a les radiateurs. Ça, voilà, ça fait vraiment tout, quoi. C'est un système assez incroyable. Donc, voilà, il faut charger. C'est clair. Quand on a une maison autonome, on aura dedans, il y a exactement le même confort, donc c'est magnifique. Mais il y a ce petit côté, évidemment, on doit aller charger la chaudière, on a le bois, on coupe le bois. Après, pour moi, c'est un plaisir. Donc voilà, mais c'est finalement, en fait, le fait d'habiter aussi dans la forêt, dans une maison autonome, ça nous remet, ça nous reconnecte vraiment un peu à la nature, quoi. Mais en même temps, c'est un luxe.
C'est aussi un lien avec cette maison qui est très ancienne.
Ah oui, la maison, cette maison-là, elle est de 1888, donc plus bas, en dessous, donc il y a une ruine. Et cette ruine, ça doit être du 17e siècle avant. En fait, c'est une maison qui a brûlé. Et donc, quand elle a brûlé, ils ont décidé, puis ils ont dit, tiens, on va mettre la nouvelle ici. Et en fait, la petite histoire vraiment de cette maison, c'est qu'il y a Lénine qui est passé par là, le créateur du communisme. Et puis, il est passé là, donc avant Octobre Rouge, et puis il a préparé ça un peu dans cette maison. Il était dans un chalet juste en dessus, et puis il est passé par là.
C'est pas commun. Alors, on fait le tour. Tu nous expliques un peu ce que tu as fait pour rendre cette maison autonome.
Exactement. Alors, déjà au début, parce que nous, quand on a racheté cette maison, il y avait déjà justement l'extérieur qui avait été fait. Donc, c'est toute la laine de roche avec des enduits minéraux, donc sur des crépis minérales. Le toit a été refait et puis les fenêtres avaient été changées. Donc, ça, c'est ça. Après, en extérieur, ça fait partie au fait d'être autonome. On a installé une mini-step. C'est une station d'épuration, en fait. C'est un réservoir, et en fait, ça envoie de l'oxygène, et en fait, après, ça redéverse l'eau pure, en fait, dans la nature. En fait, on a notre propre station d'épuration, entre guillemets. Même ça, c'est aussi l'autonomie. Donc ça, c'est la première chose qu'on avait fait. Et puis après, donc, on a... Donc, extérieur, ça, c'était déjà fait, donc on a des naturels. Puis après, c'est dedans que ça se passe. Là, justement, on a décidé de tout ouvrir, parce que justement, il y a cette belle charpente, tout ce bois ancien, et puis voilà, ça nous amène ce puits de lumière. Et puis avant, justement, là, tous les murs et tout, c'était recouvert de crépis, qui n'étaient pas naturels, ça ne laissait pas respirer les murs, parce qu'il faut savoir qu'ici, c'est tout des murs en pierre, quoi, des gros murs en pierre. Et puis ça a besoin de respirer, donc là vraiment on a si tout piqué les murs, c'est pour ça qu'on voit bien, voilà, comme c'est un peu ondulé et autres. Et puis ça, donc dessus, il y a deux couches de chaux. Il y a d'abord de la chaux qui va être grossière pour refixer un peu les pierres. Une autre couche par-dessus pour vraiment faire un peu l'ondulation. Puis après il y a vraiment l'intonacino fino, ce qu'on appelle c'est un enduit très fin, la chaux, qu'on passe dessus. Et puis qui est épongé.
Est-ce que tu peux nous parler plus des propriétés de la chaux, en fait ?
La chaux, en fait, vraiment, l'avantage, le gros avantage de la chaux, c'est beaucoup, si on a des humidités l'humidité dans les pièces, la chaux va prendre cette humidité, elle va la rendre quand il va faire trop sec, donc elle régule tout le système, aussi même au niveau de la pollution, elle peut absorber ça, donc c'est vraiment... Non, c'est génial. Plus beaucoup de gens veulent travailler avec ça, alors que c'est un produit qui est magnifique. En plus, c'est vivant, je veux dire. Quand on voit ça, c'est superbe. Et beaucoup, justement, on en revient aussi pour les caves. On parle des caves, des lieux humides où, par exemple, on dit « Attends, mais j'ai de l'humidité dans ma cave et tout. Je mets une peinture au silicone. Comme ça, ça bloque l'humidité. » Non. Le mur, il doit respirer, justement. La pierre, elle réagit avec la météo, avec tout. Donc, elle va se gorger d'humidité. Si on la bloque, maintenant on rénove des fermes par exemple, ça c'est une ferme à l'origine, on rénove des fermes, Et on va mettre du polystyrène. Mais le polystyrène en fait un thermos. Et cette humidité, à un moment, elle va le voir sortir. Et on le voit autour des fenêtres. Alors on voit les gens. Et puis en fait, il y a la moisissure qui va se créer. Parce qu'à un moment, pas rêver, elle va sortir. On peut faire ce qu'on veut. L'avantage, là par exemple, c'est de la laine de roche, plus la chaux, ben voilà, ça traverse. L'humidité, elle rentre, elle sort.
Et en fait, tu as beaucoup de clients ici aux alentours, donc on est à côté de Baie. Tu as beaucoup de clients qui s'intéressent à la rénovation dite écologique?
Alors, je dirais, en Suisse, c'est pas non plus... Ça prend de plus en plus, mais moi, je bouge quand même pas mal. Après, c'est vrai que les gens, effectivement, qui sont comme avant aussi, j'étais à Grillon, à la montagne, ils ont peut-être un peu plus la fibre aussi, vraiment dire, ah tiens, on va utiliser la chaux. Après, c'est vrai que ça a des coûts un peu plus élevés parce que le travail aussi demande plus. Malheureusement, les matières sont plus chères, alors qu'elles devraient presque être moins chères. Mais c'est, comme on parlait avant, c'est vraiment les gens, ils ont, en Suisse, pour moi, ils ont plus la fibre de dire, tiens, ça va me faire économiser de l'argent, plutôt que de dire, c'est naturel. Puis après, vraiment, c'est un peu la même clientèle. La clientèle qui m'appelle vraiment rénovation, voilà, pour ce qui est écologique, on voit ce qu'ils veulent. Même des fois, c'est même certaines, des fois, moi qui dois les calmer. Je dis, allez, on se calme, hein, quand même, on va pas mettre de la terre sur les murs, voilà, hein, il faut que ça dure. C'est ça aussi. Il y a un moment, moi, ma philosophie, c'est de me dire, OK, on travaille avec des matières naturelles, mais des fois, s'il y a un petit truc dedans qui va permettre que cet enduit, il dure 20 ans au lieu d'en durer 10 ou comme ça, ben voilà. Pour moi, c'est ça aussi. Ou des fois, de récupérer des matériaux. Là, par exemple, on va voir, il y a plein de... Tout le bois que j'ai utilisé, c'est tout des planches qui étaient là, voilà, qu'on a rebrossées, qu'on remet. Pour moi, ça, c'est vraiment de la rénovation écologique, de réutiliser des matériaux, quoi.
On poursuit notre rock'n'sop sur la rénovation avec tout d'abord l'interview de Lucie Mérigeau, ingénieure et responsable du service technique de l'office roman de l'association Lignum. Lignum est l'association fêtière du secteur forestier et du bois en Suisse. La Suisse dispose d'un potentiel annuel d'environ 3 millions de mètres cubes de bois exploitable. Est-ce que ce bois peut être utilisé dans la rénovation et quel est son intérêt? On écoute sa réponse.
Alors, ce qui est souvent utilisé en rénovation, quand on parle de rénovation, on parle souvent de rénovation énergétique. Donc, on pense souvent à réisoler les bâtiments. C'est le premier point. Et pour réaliser ça, il y a plusieurs méthodologies. Et une qui est très intéressante avec les solutions techniques que propose la filière bois, c'est de venir rhabiller le bâtiment existant avec une enveloppe en ossature bois. Donc, on a du bois dans l'ossature et l'isolant qui est intégré dans ces éléments-là. Donc, on peut avoir donc cette solution-là qui est très efficace à la fois parce que ces éléments de parois d'ossature qui sont préfabriqués en atelier, donc l'isolation est déjà intégrée. On peut avoir des très grandes dimensions de modules. Donc, on peut travailler sur une hauteur d'étage et pratiquement 2 mètres de long. Donc ça peut être très très rapide aussi en chantier. Nous, on a même quelques images assez rigolotes de bâtiments où on voit encore la baignoire dans l'appartement existant qui est désossé, enfin la façade existante est désossée, puis hop, il y a 2 semaines, il y a tout un immeuble qui est réhabilité comme ça. Donc on a cette notion de préfabrication d'éléments donc qui est très rapide sur le chantier, et puis bah, c'est des éléments qui sont autoportants si on veut bien, donc on rajoute pas forcément beaucoup de surcharge à la structure, donc on peut poser vraiment des grands éléments, et puis c'est des éléments qui restent légers, même s'ils sont de grande dimension, donc on va pas non plus surcharger les fondations, donc c'est assez intéressant de le faire comme ça. Donc on peut effectivement enlever l'existant qui est entre les éléments de substance structurelle, et puis venir mettre une ossature bois isolée pour rénover thermiquement un bâtiment. Ça, c'est vraiment dans un contexte de rénovation énergétique assez simple. Et puis, le grand intérêt de l'utilisation du bois dans les rénovations, c'est aussi quand on peut surélever. Donc, l'idée de rénover, parfois, si le contexte, on va dire, légal de la construction permet d'avoir un étage, voire 2 en plus, les solutions bois qui sont donc légères en termes de poids propre, hein, sont souvent utilisés pour faire de la surélévation. Donc, on ne rénove pas forcément le toit existant juste en isolant, mais on va carrément rajouter un étage. Et ce poids réduit des solutions bois permet souvent de le faire sans forcément avoir de gros travaux à faire sur les fondations.
Parmi les solutions, les matériaux qui sont proposés aujourd'hui pour la rénovation, pour vous, qu'apporte le bois d'un point de vue justement énergétique, durabilité?
Le premier principe, c'est de ramener de l'isolation. Donc, dans une ossature bois, on peut mettre à peu près tous les isolants qu'on veut. C'est vrai que le bois étant un matériau naturel qui a un comportement aussi hygroscopique, on construit notamment en général avec d'autres matériaux qui vont dans ce sens-là, donc souvent d'autres matériaux biosourcés par exemple. Mais donc le premier thème, c'est quand même l'isolant. On choisit l'isolant qu'on veut, il n'y a pas forcément de bois, pas forcément d'impact direct là-dessus, si ce n'est que la paroi se comporte mieux si on a un isolant qui est adapté à l'ossature bois, et souvent ces isolants-là sont des isolants qui sont plus avantageux du point de vue, on va dire, matériaux, c'est-à-dire des matériaux qui sont peu consommateurs de CO2. Alors, c'est clair que si on met de la paille, c'est super, du point de vue environnemental, du point de vue énergie grise, mais il y a d'autres matériaux, même aujourd'hui des laines de verre recyclées qui sont de très bonne valeur et qui fonctionnent très très bien avec la construction bois. C'est vrai que les isolants plus pétrochimiques, on va pas les mettre dans une ossature bois. Le comportement des deux matériaux est pas forcément adéquat. Donc, à partir du moment où on choisit de construire avec une ossature bois, on va de fait s'orienter vers d'autres types de isolants qui sont tout à fait adaptés. Et puis, du point de vue du matériau lui-même, l'ossature bois, elle a deux avantages. Le premier, c'est vraiment cette notion de rationalisation et d'optimisation de la matière. C'est-à-dire que dans une ossature, il y a de toute façon peu de matière. Il n'y a pas beaucoup de bois. En fait, c'est vraiment des petits montants qui font 6 cm d'épaisseur tous les 60 cm. Donc, on est déjà sur une solution qui est ultra optimisée en termes de, j'utilise la matière là où il faut et je n'ajoute pas de la matière tout court. Et puis, en fait, quand on veut être, bon, du point de vue environnemental, c'est le nœud de tout ça, c'est en fait mettre moins de matière tout court. On met moins de matière dans une ossature bois, et en plus, la matière qu'on met, c'est du bois, qui lui a des avantages naturels, tout à fait intéressants du point de vue économie d'énergie grise, puisque c'est un matériau renouvelable, donc qui pousse dans nos forêts. Le bois, il demande peu d'énergie pour être transformé. Donc, l'arbre demande peu d'énergie pour être transformé en plan de bois. Et puis, même au-delà de ça, on a vraiment cette notion aussi de stockage de carbone. C'est-à-dire que l'arbre en forêt, il a capté le CO2 pour grandir. Et bien sûr, si on laisse l'arbre en forêt, il va suivre son cycle naturel et puis il va rejeter le carbone quand l'arbre sera mort, quoi, tout simplement. Et l'idée, c'est effectivement dans la construction de pouvoir stocker le plus longtemps possible ce carbone qui a été généreusement offert au stockage par la nature. Et si on construit en bois, on stocke encore plus longtemps dans nos bâtiments. Donc, c'est très avantageux d'utiliser ce matériau-là pour ça aussi. Donc, on a une économie de fait parce que le matériau demande peu d'énergie grise pour sa construction. On a du stockage de CO2 et puis, par effet boule de neige, on va aussi choisir d'autres matériaux, on va dire périphériques, pour la fonction de l'ossature bois d'enveloppe fonctionne. On va souvent s'orienter vers d'autres matériaux qui ont aussi ces caractéristiques-là. Donc, c'est vrai que quand on part avec des solutions bois, on va en général avoir de très bons résultats du point de vue effectivement environnemental, énergétique et utilisation d'énergie grise, donc dépense de CO2.
Enfin, terminons ce Rock'n'Sop sur la rénovation par la question sociale. Rénover, oui, mais à quel prix pour les locataires? Mi-janvier, la Régie Nef, agissant pour le compte de la Caisse de pension de Belleville, annonçait à une centaine de locataires et de commerces d'un immeuble du boulevard Karl Vogt la résiliation de leur bail pour cause de rénovation énergétique. L'affaire a immédiatement suscité un tollé et un lever de bouclier. Nous avons rencontré, fin janvier, Christian Dandresse, juriste à l'ASLOCA, l'Association de défense des locataires à Genève. Voici ce qu'il disait concernant la résiliation de ces baux.
Passé le choc, je crois que les locataires maintenant sont bien mobilisés. On a réussi à organiser une riposte assez fort. Les milieux immobiliers pensaient que ça allait passer comme une lettre à la poste sans réaction. C'est pas le cas. et on a des soutiens qui sont assez larges. Donc je pense que dans cette première phase de cette lutte, qui va être une lutte au long cours, ben, on est, disons, plutôt en bonne posture. Mais disons, le pire reste maintenant, c'est comment est-ce que le département va réagir et est-ce que le département va utiliser le cadre juridique que lui donne la loi cantonale, qui est une loi qui a été acquise de haute lutte par les locataires, pour, disons, faire plier le propriétaire et que ces travaux se fassent avec les locataires en place. C'est ça l'enjeu.
Voilà, parce qu'est-ce qu'on peut parler de cette loi ?
Alors, en fait, la loi cantonale, elle préserve les conditions d'habitat et le parc immobilier locatif abordable contre la spéculation. Et la spéculation, elle se fait à plusieurs niveaux. Ça peut être des travaux somptuaires, vous transformez des appartements, vous les fusionnez pour en faire des logements de standing, inabordables pour l'essentiel de la population, ou par, justement, ces pratiques qui ont monnaie courante en Suisse alémanique, qui consistent à vider complètement un immeuble, à faire des travaux lourds, et ensuite à relouer les appartements avec des contrats non renouvelables, avec des loyers stratosphériques. Donc ça, c'est la menace qui est très concrète. Elle existe ailleurs en Suisse alémanique et il faut la bloquer à Genève parce que sinon, c'est la catastrophe.
Mais est-ce que Genève a vraiment les moyens d'intervenir là?
Ah oui, très largement. Alors là-dessus, ouais, la jurisprudence du tribunal fédéral était très claire. C'est que la question de la résiliation du contrat de bail, ça, c'est une compétence de la Confédération. Donc le canton ne peut pas dire « je refuse que vous résiliez les baux », mais le canton peut dire « propriétaire, si tu vides l'immeuble et tu notifies des congés à tout le monde, tu n'auras pas l'autorisation de construire ». Ce qui, évidemment, est un élément de pression suffisamment fort pour amener le propriétaire à réfléchir et à faire les travaux avec les locataires en place, en tout cas avec la majorité d'entre eux. Et c'est ce que font d'ailleurs l'essentiel des propriétaires depuis les 50 dernières années à Genève. C'est maintenant effectivement ce propriétaire qui va enfoncer la porte, dans la perspective aussi de faire rompre la digue et ensuite de permettre d'autres congés que vont évidemment utiliser d'autres propriétaires, parce qu'il y a énormément d'argent à se faire évidemment avec ces pratiques.
Vous avez peur en fait que ça ouvre une porte à une dérive, quoi?
Ah, mais c'est une évidence. Dans le canton de Zurich, qui avait la même loi mais qui l'a supprimée il y a une trentaine d'années, l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, à la demande de la ville, a fait une étude et entre 2014 et 2019, c'est 13 000 foyers qui ont été chassés de chez eux par ces pratiques-là. Et la situation à Zurich est à peu près similaire à celle de Genève. Vous laissez imaginer ce qui va se passer si le département ne met pas le holà immédiatement à cette pratique. C'est foutu.
Alors, il y a un double discours, hein, parce qu'effectivement, pourquoi on rénove en fait ? Aujourd'hui, le canton incite les propriétaires à rénover leurs immeubles, leurs logements, dans un but écologique. Vous avez dit, vous avez même déclaré dans la presse que c'était du greenwashing. Est-ce que vous maintenez ça ou est-ce que...
Alors, disons, les rénovations énergétiques sont nécessaires parce que le parc immobilier aujourd'hui consomme énormément, c'est une source de pollution très importante dans le canton, donc il faut faire ces assainissements. Mais d'utiliser cette nécessité pour chasser tout le monde et relouer à des prix stratosphériques, ça évidemment c'est du greenwashing, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et la preuve en est, c'est que d'autres propriétaires aujourd'hui même font des travaux avec les locataires en place qui sont à peu près les mêmes que ceux qui ont été annoncés par la caisse de pension de Balleville. Donc c'est parfaitement possible et en fait le problème il est ailleurs. Et le problème il se trouve où ? Il se trouve sur le simple fait que ce propriétaire a acheté ses immeubles 128 millions de francs alors qu'il valait 9 millions en 1999 et que maintenant il veut rentabiliser chaque centime de ce 128 millions de francs à très haut pourcentage et que pour ça la solution c'est de virer tout le monde. C'est ça qu'il souhaite faire. Le reste évidemment c'est le greenwashing et le climat a bon dos et ne doit pas être utilisé à cette fin-là, c'est vraiment scandaleux.
Et il y a aussi autre chose, il y a 500 millions de subventions qui ont été décidées en 2024 avec plusieurs partenaires. Vous étiez aussi autour de la table quand ça s'est décidé. Est-ce que ces subventions qui viennent appuyer en fait ces travaux de rénovation dans un but énergétique, est-ce que ces subventions devraient être justement plus soumises au maintien des locataires ? Est-ce qu'il devrait y avoir des leviers à ce niveau-là ?
Alors cet accord, il avait été pris à la suite d'une initiative que la Sloca Genève avait déposée pour prévoir justement de l'argent pour rénover les immeubles avec des mécanismes de protection contre les loyers abusifs. On a trouvé cet accord qui aboutit à peu près au même résultat avec 500 millions de francs sur la table. On est favorable à ces travaux. Je précise que ces 500 millions de francs viendront en déduction de ce que le bailleur pourra répercuter sur les loyers, donc c'est une très très bonne chose. Mais là, de nouveau, on est sur une autre dynamique, c'est que la loi cantonale, hormis cet accord, prévoit que le propriétaire ne peut pas vider un immeuble pour faire des travaux. Donc le département a toutes les cartes en main, il doit les utiliser et dire à ce propriétaire, ce n'est pas la pratique à Genève, et cette pratique n'est pas juste quelque chose d'accessoire, elle est fondée sur la loi, et cette loi est confirmé à nombreuses reprises en votation populaire et par les jurisprudences. Donc on doit juste rappeler la raison au propriétaire en disant « ton coup d'essai ne marchera pas ». C'est ça le principe.
Mais justement, il y a la loi, il y a les décisions politiques, les affirmations, mais pourquoi ça a pu se passer en fait ?
Mais ils ont essayé. Ça veut dire que encore récemment, des travaux ont été faits dans les immeubles alentours, des travaux très lourds, largement aussi lourds que ce qu'ils ont annoncé là. Les locataires ont pu rester en place avec des mécanismes de rocade. Je dis pas que c'est une promenade de santé pour les locataires, hein, mais en tout cas, ils n'ont pas perdu leur beau et leur logement. Et donc, du coup, c'est possible. Mais on est dans une période un peu particulière parce que il y a une pénurie massive de logements. Il y a énormément de cash qui est investi dans l'immobilier parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule aujourd'hui. Et l'immobilier, c'est une valeur extrêmement sûre. Le risque de perdre de l'argent avec ça est quasiment nul. Et les rendements qui sont aujourd'hui dans l'immobilier sont quasiment des rendements boursiers autour de 10%. Donc évidemment, beaucoup de personnes poussent la porte en disant « nous voulons acheter et acheter à n'importe quel prix » parce que vu la pénurie et la capacité financière d'une partie des ménages genevois, ils savent qu'ils vont pouvoir relouer ces appartements à plus de 4 000 francs sans aucun problème et donc obtenir des rendements à 10%. Donc ils y vont. Mais évidemment, ça attaque fortement le parc immobilier, les conditions d'habitat et ça, c'est le principe posé par la loi. Donc il y a ces outils, il faut qu'ils les utilisent. Ces outils ont été mis en place dans les années 80. C'est une période aussi, il y avait une spéculation effrénée, il y avait des congés ventes, ils vidaient les immeubles de leurs habitants. Et c'est des initiatives populaires lancées par la SLOCA qui avaient abouti et qui ont permis, disons, de bloquer ces processus pendant plusieurs décennies. Et aujourd'hui, ils veulent à nouveau forcer la porte dans ce contexte économique particulier. Et donc, il faut au nouveau une réaction politique qui est dire, on applique cette loi strictement.
Donc, c'est entre les mains du canton, en fait.
C'est pleinement entre les mains du canton. Ils ont toute l'attitude. Ils peuvent dire à ce propriétaire, si tu fais ça, ton autorisation, tu ne l'auras pas. Et effectivement, ce sera largement suffisant pour ouvrir une négociation et faire en sorte que ce propriétaire fasse comme tous les autres propriétaires. On a réussi à obtenir des accords avec Allianz, qui n'est quand même pas une institution plus philanthropique que la Caisse de pension de Bâle-Ville. Il n'y a pas de raison que la Caisse de pension de Bâle-Ville ne le fasse pas.
Vous êtes confiant ou pas ?
Ben, c'est disons une première manche qui pour l'instant était plutôt bonne, maintenant c'est la suite et on doit continuer évidemment cette pression et mobiliser un maximum les locataires autour justement de cet enjeu en leur disant c'est pas uniquement le relogement qui est en jeu, ben, c'est trop facile, sinon j'achète un immeuble 128 millions, 14 fois plus cher que le prix de base, je vire tout le monde, je dis à l'État ben, reloge les gens parce qu'en plus c'est des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens financiers donc ça ne m'intéresse pas comme propriétaire de les avoir comme locataires et puis disons vous pouvez continuer comme ça très largement. De nouveau, 13 000 foyers qui ont été privés de leur logement à Bâle, à Zurich en 5 ans. Vous imaginez à Genève ce qui va se passer, ça va être la même chose. C'est l'équivalent d'une ville comme Nancy, parce qu'on parle de foyers, donc l'équivalent d'une ville de Nancy qui pourrait être vidée en l'espace de 5 ans. On ne peut pas laisser passer ça.
Et on a appris la semaine dernière que la section genevoise de l'Union Suisse des professionnels de l'immobilier a annoncé l'adoption d'une charte recommandant de limiter autant que possible les résiliations des baux lors de grands travaux.
Radio Vostok. Écoute. Explore.